C'est une joie de nous retrouver encore ensemble, frères et sœurs, autour de notre Dieu à ses pieds pour être édifiés, repris, corrigés et bénis. Alors nous allons commencer avec la prière. Le frère Médard va nous introduire dans cette première partie de la méditation avec la prière.
Prions, bien-aimés. Grand Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à maintenant, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie. Et Seigneur Dieu, tu continues à nous appeler des vivants. Seigneur Dieu, merci pour cela. Merci parce que tu as vaqué dans nos, tu nous as aidé de vaquer dans nos occupations partout, Seigneur. Tu nous as accompagnés. Ton accompagnement a fait que, Seigneur, nous puissions rentrer chez nous à la maison. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu nous donnes encore l'opportunité de venir dans ton école pour être instruit, Seigneur Dieu, pour être enseigné, Seigneur, pour nous dire ce que nous devons faire vis-à-vis de notre relation avec toi. Seigneur Dieu, merci pour cela. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, de entrer dans ta présence, sanctifier, purifier, Seigneur. Nous venons auprès de toi te dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne chacun de nous, Seigneur Dieu. Tu as vu comment nous avons marché, Seigneur Dieu. Là où nous ne t'avons pas plu, Seigneur, Seigneur Dieu, efface. Purifie-nous, grand Dieu, parce que nous voulons être saints pendant que nous sommes devant ta présence, pendant que nous sommes en train de t'écouter, pendant que nous sommes en train de comprendre ta parole. Merci, Seigneur Dieu. Remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur Dieu, nous soyons agréables à tes yeux. Et, Seigneur Dieu, que ce Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Papa, merci. Parce que tu ne vas pas nous laisser seuls pendant ce moment. Du début jusqu'à la fin, nous savons que tu seras avec nous. Merci pour les modérateurs de ce soir. Merci, Seigneur, pour toutes les interventions qu'il va canaliser, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole. Et merci, Seigneur, pour les interventions de chacun de nous, Seigneur Dieu. Laisse que, Seigneur, seule ta parole puisse être dite en ce soir, Seigneur. Merci pour le partage que nous allons faire. Toutes les familles qui sont représentées, Seigneur Dieu, nous te prions de les bénir. Et nos bien-aimés qui vont aussi nous rejoindre, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses les sanctifier là où ils sont. Et quand ils vont arriver, nous sommes dans la même assiette. Bien-aimés, Seigneur, nous avons aussi des bien-aimés qui sont à la radio, qui vont nous entendre, qui vont écouter ta parole, Seigneur Dieu, aide-les. Et ceux-là qui vont nous écouter, après, Seigneur, nous voulons encore prier pour eux. Béni sois-tu pour la parole, Seigneur Dieu, qui va être annoncée ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Amen. Merci frère pour la prière. Nous allons écouter la lecture de la parole du Seigneur par notre sœur Luboula. Ça va être dans Genèse chapitre 32. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Et il se pourrait que dans d'autres versions, ce soit le verset 4 au lieu du verset 3. Alors, ça va être Genèse 32, du verset 3 au verset 21.
Je lis dans la... Oui. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon serviteur Ésaü. Ainsi parle le serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et servantes, et j'envoie l'annoncer à mon serviteur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant : « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bateau et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et Dieu et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles et chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 2 taureaux, 20 ânes et 2 ânes. Il leur remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, car quand vous le rencontrerez, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci beaucoup, ma sœur, pour la lecture de la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous faisons suite au texte d'hier dans lequel nous avons vu que Jacob et sa famille étaient rejoints, rattrapés par Laban et toute la troupe qu'il avait avec lui. Et que le Seigneur était intervenu en faveur de Jacob pour menacer Laban dans un rêve pour, et lui dire de ne pas s'en prendre à Jacob. Et à cause de cela, Laban a été assez apaisé, craintif, même pour pouvoir faire une alliance avec Jacob. Et l'alliance étant faite, la frontière étant matérialisée par un monument à partir duquel l'un et l'autre ne pouvaient pas traverser la frontière avec de mauvaises intentions pour nuire à l'autre. Et Laban étant reparti, maintenant, au fait, hier, nous avons vu encore dans le premier verset du chapitre 32 que Jacob, lui aussi, a poursuivi son chemin vers l'endroit où était son père. Et aujourd'hui, nous voyons, au fait, que non seulement il constituait lui-même un certain, disons, on peut dire une certaine grandeur dans le groupe qu'il avait, mais il a rencontré aussi des anges qui manifestaient de manière aussi palpable, en tout cas, la présence du Seigneur. Et dans ce texte, aujourd'hui, nous avons là un Jacob qui est en train de mettre en place une stratégie pour rencontrer son frère. Nous nous rappelons dans quel contexte, dans quelle situation ils se sont séparés, et la crainte et l'angoisse s'emparent de lui. Et il met en place une stratégie qui est intercalée par une prière, en fait un modèle de prière que nous pouvons copier aussi. Et c'est autour de cette stratégie et de la prière qu'il a faite que nous voulons en fait méditer cette parole ce soir. Nous avons deux questions pour nous aider à méditer. La question numéro 2, est-ce que ce texte apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 5, est-ce qu'il y a une promesse? Et nous n'oublions pas notre question habituelle, la question numéro 7, quelle est la vérité que Dieu me révèle dans cette méditation ce soir? Voilà, frères et sœurs, les éléments à partir desquels nous pouvons faire notre méditation. Je nous rappelle encore, comme d'habitude, nous ne prêchons pas, nous partageons en fait ce que le Seigneur nous révèle sur nous-mêmes, sur ces textes. Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Comment nous pouvons grandir dans la connaissance de notre Dieu? En nous servant des questions qui nous sont posées, ça nous aidera évidemment à bien méditer, mais aussi à partager. Par exemple, en répondant directement aux questions à travers un verset ou l'autre, ou même aussi à travers un groupe de versets. Voilà, frères et sœurs, nous sommes prêts maintenant à partager la parole du Seigneur. Ma liste, j'ai au fait des noms habituels et des numéros habituels aussi. Il y a un numéro qui est habituel et les personnes que je vois sont habituelles. Alors, nous connaissons comment prendre la parole. 2 minutes maximum, partageons rapidement, de manière concise. Et si nous avons encore des choses à dire, nous pouvons revenir dans la suite. Voilà. Est-ce que le pasteur José est avec nous?
Oui, je suis là.
Oui, alors, juste lever la voix pour me dire si vous voulez intervenir.
Oui, merci beaucoup, frère.
Oui. Alors, vous pouvez y aller, pasteur.
Oui. C'est d'une façon globale que je prends la parole. Quand je vois la peur et l'angoisse qui saisit Jacob, je me dis, mais cet homme à qui Dieu parle souvent, et surtout dans ce voyage, souvent, et Dieu confirme sa présence, sa protection, et même la présence des anges, la présence des anges. Est-ce que Jacob ne pouvait-il pas commencer par la prière au lieu de la stratégie? Parce que au verset 10, il y a ensuite Jacob pria. Ensuite, c'est-à-dire que après cela, il y a eu ceci. Mais compte tenu du soutien de Dieu, ne pouvait-il pas commencer par la prière et la stratégie ensuite? C'est une question que je pose. Je n'ai pas besoin qu'on me la réponde, à moins que quelqu'un le veuille. Mais c'est ça ma question. Merci beaucoup, pasteur.
Merci. En fait, on veut dire que c'est une question de rhétorique. On la pose, on n'a pas nécessairement besoin d'une réponse. C'est vrai, on peut toujours y répondre si on veut. Merci beaucoup. C'est vraiment une réalité. Pourquoi commencer par une stratégie au lieu d'une prière? Donc, en fait, tout au long de la méditation, nous le verrons. Frère Albert, vous avez la parole. Frère Albert? Ok. Frère Albert semble ne pas nous. Semble peut-être loin de son téléphone. Sœur Ruth, vous avez la parole.
Ah, c'était pour, au fait, pour, bah, pas pour répondre, mais juste pour faire une remarque. Parce que depuis que je lis l'histoire de Jacob, je ne sais pas si c'est moi toute seule, mais j'ai la vague, j'ai l'impression que Jacob a l'art de faire des plans et ensuite d'embarquer Dieu avec. Le problème dans ce genre de situation-là, c'est que Dieu n'est pas obligé de terminer ce qui n'a pas commencé. C'était juste pour ça.
Merci beaucoup, ma sœur. C'est une bonne remarque. D'être dans le passé, là, on a vu comment il a planifié des choses pour avoir le droit de naissance, comment il s'est organisé avec sa mère pour avoir la bénédiction que son père voulait donner à son frère Ésaü, etc. C'est vrai dans ce cas-là. Et dans celui-ci aussi, nous pouvons, à certains égards, évidemment, on peut voir cela, mais ce qui est vrai encore ici, c'est toute la vérité qu'il va exposer dans sa prière à partir du verset 10 jusqu'à 12. On voit ici, il va dire, c'est Dieu, c'est toi-même qui m'as dit de retourner, de rentrer là où se trouve mon père, dans le pays de ma naissance. Donc c'est une bonne remarque là, effectivement. Mais dans ce cas ici, il est au fait, il a bougé sous l'inspiration et la direction du Seigneur. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi, malgré que c'est Dieu qui y a parlé, malgré qu'il a vu les anges, vous vous souvenez dans le verset 1 qu'on a vu hier et le verset 2, on parle, il a vu les anges au point qu'il a dit, ah, c'est ici le camp des dieux. Et il a appelé Manaïm. Mahanaïm, ça veut dire deux camps. En d'autres termes, lui, il voyait son camp, lui, avec ses femmes, ses enfants et les gens qui étaient avec lui. Mais il voyait aussi le camp des anges dans un même endroit. C'est un réconfort. Dieu lui faisait un clin d'œil, si je suis avec toi. Et pourquoi, malgré ça, il commence par une stratégie au lieu, évidemment, de commencer par la prière. Je vais encore proposer au frère Albert d'intervenir. Nous ne les saisissons pas. Alors, pasteur Célé ou maman Christine, vous avez la parole.
Merci, papa José, pour la parole. Je suis dans les deux premiers versets, le verset 4 et le verset 5 dans ma version. C'est quand Jacob va envoyer des messagers pour aller voir son frère Ésaü. Au verset 5, il va leur donner cet ordre en leur disant, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. C'est le mot mon Seigneur qui me montre combien le respect, la considération et même l'humilité que Jacob présente. Et même quand les messagers partent, ils vont appeler Ésaü le Seigneur de notre patron. Le respect que Jacob doit à son frère, ce même respect se répercute dans toute la famille. Donc, dire, là, c'est vraiment un exemple à suivre qui nous montre combien nous devons respecter les autres, considérer les autres, et même quand nous le ferons, nous verrons que tous ceux qui nous entourent vont devoir le même respect, la même considération aux autres. Amen.
Mmh, amen. Merci beaucoup, Pasteur Céleste. Et, au fait, la question du respect dans la communauté, on exprime le respect de plusieurs manières selon les cultures. Dans ce cas ici, c'est une culture qui veut qu'effectivement à quelqu'un d'autre, on s'adresse comme Seigneur. Ce n'est pas à confondre en disant peut-être que Jacob est en train d'idolâtrer son frère. Non, c'est un peu comme chez les Congolais quand on appelle Papa Cédé ou Maman Christine. C'est un terme de respect qui est traduit là. Dans la culture ici, effectivement, le fait d'appeler quelqu'un Seigneur Ésaü, c'est tout simplement ce respect comme le pasteur Cédé vient de le dire. Et que ce qui est encore intéressant, c'est de voir que comme le chef de la famille ou le chef de l'organisation utilise ce langage de respect vis-à-vis de quelqu'un, en fait, il influence aussi tout le monde derrière lui pour pouvoir faire la même chose. Et c'est comme ça que les serviteurs vont le faire aussi dans la suite. Merci beaucoup pour cette intervention. Et dans cette stratégie qu'il va mettre en place, en fait, il va donner un mot d'ordre aux serviteurs qui vont le précéder pour pouvoir parler. Mais aussi, on voit que lorsque les serviteurs reviennent, je suis au verset 7, ils reviennent avec un message qui a angoissé davantage Jacob. Il était déjà au départ angoissé. Il avait peur. La présence du Seigneur ne l'avait pas rassuré du tout. La vue des anges ne l'avait pas rassuré encore. Et le message que vient lui présenter le messager est encore angoissant parce que Ésaü va se mettre en route, mais il est à la tête d'un très grand groupe, 400 hommes. Ce qui me parle dans ce verset, frères et sœurs, c'est, en fait, je suis interpellé sur la question de la bénédiction de Dieu. Quand est-ce que je peux dire que je suis béni? Est-ce que je peux restreindre la bénédiction de Dieu à la vue des choses ou à la possession des choses? Parce que de ces deux jeunes gens, celui qui est béni, c'est Jacob. Pour moi, comme nous l'avions dit dans les méditations précédentes, être béni de Dieu, c'est être dans le projet de Dieu. Ésaü n'est pas dans le projet de Dieu, mais matériellement, il est puissant. On le voit ici, être à la tête de 400 hommes, ce n'est pas une mince affaire. Ça veut dire que si on voyait juste les faits, on dirait que oui, il est béni, alors qu'il n'était pas dans le projet ou dans le plan de Dieu. Que je fasse attention de ne pas restreindre l'œuvre de Dieu ou les bénédictions du Seigneur seulement à la possession de biens matériels. Je vais donner la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa pasteur, pour la parole. Je ne suis pas devant les textes, je suis en train de conduire. Je voulais juste parler sur l'attitude de Jacob. Jacob qui appelle son grand frère Seigneur, il envoie la peur parce que je crois qu'il est encore Jacob, il n'est pas encore converti à Israël. Je ne sais pas si le respect là n'était que juste une manière de de manipuler, ou bien c'était le vrai respect qu'on se doit les uns les autres. Donc je me posais des questions. Je suis en train juste de parler des questions qui ont traversé ma tête en lisant cette partie. Parce que après, ce n'est qu'après la conversion que la nature de Dieu apparaisse. Et ici, nous voyons l'homme qui a l'habitude de manipuler les gens. Donc, on peut aussi utiliser le soi-disant respect, embrasser les gens, être gentil, non pas parce que ça vient de notre nature, notre cœur transformé, mais parce que je vise à quelque chose. J'étais en train d'observer un peu en cela dans la vie de Jacob selon le texte d'aujourd'hui. Merci.
Merci. La vérité que nous connaissons déjà, c'est que Jacob est connu de Dieu. Avant même qu'il n'en arrive là aujourd'hui, c'est quelqu'un que Dieu a rencontré, quelqu'un à qui Dieu a parlé, quelqu'un à qui Dieu a donné des promesses. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est dans le camp de Dieu. Maintenant, son caractère, moi je le vois sous une autre forme. C'est que, comme nous tous, comme vous et moi, lorsque nous nous sommes convertis, notre vie, nos petites manies, nos petites habitudes n'ont pas changé du jour au lendemain. Et c'est ce que Dieu a fait avec lui en l'amenant à cette grande école. Moi, je l'appelle ça école, parce qu'il a dû apprendre beaucoup de choses en 20 ans auprès de son oncle Laban. Et il va revenir, on voit un homme qui a été de plus en plus brisé, et le Seigneur continuera de faire comme on va le voir demain à Péniel, il va rencontrer encore le Seigneur. Je le vois ici dans la transformation du caractère du croyant. Et ça, c'est quelque chose qui est continuel, que Dieu fait. Aujourd'hui encore, le Seigneur le fait dans ma vie, et j'ose croire qu'il le fait dans la vie des autres. Mais la conversion comme telle, Dieu ne lui aurait pas, ne se serait pas révélé à lui quand il avait 40 ans en partant. Dieu va même lui parler en disant « Je suis le Dieu de Bethel, là où tu as fait un vœu. » En fait, c'est un peu comme une alliance, la rencontre avec Dieu, comme nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit continue d'opérer et de travailler en nous. Merci beaucoup pour cette intervention, pasteur. Je vais encore redonner la parole au frère Albert s'il nous écoute en ce moment. Nous avons des difficultés à suivre le frère Albert. Frère Gaston, vous avez la parole.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset 7. Merci. Jacob fut effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Je suis interpellé par cette frayeur qui paralyse, qui tourmente Jacob. Il a reçu les promesses de Dieu. Dieu s'est manifesté à lui et même les anges, au départ, Dieu s'est manifesté et sur le chemin de retour, il a vu encore les anges, la présence de Dieu. Mais toutes ces promesses, il les oublie facilement devant la peur qui le paralyse à la rencontre de son frère. Nous savons dans quelles circonstances il a quitté et sa mère qui devait l'informer si la colère de son frère s'est apaisé, ne l'a pas fait. Alors, elle voyait plus son frère et il se demandait si son frère pouvait l'accueillir ou pas. En tant qu'enfant de Dieu, ça m'interpelle beaucoup. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et aussi, il y a le passage qui nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jacob devait être béni, mais les moyens qu'il a utilisés, et quand il se réfère à ces moyens, il a peur. Il a même peur de son frère Esaü. Si Dieu n'était pas intervenu devant Laban, nous ne savons pas ce qui serait passé, mais il a vu cela. Il a même témoigné à Laban que n'eût été la présence et la grâce de ce Dieu-là, et il n'aurait pas obtenu ce qu'il a. Ce qui m'interpelle ici, c'est devant la quelle que soit la situation, quand j'ai la promesse de Dieu, que je puisse m'accrocher à cette promesse et non regarder ce qui est tout autour ou tout ce qui se passe autour de moi. Et ensuite, quand Dieu prononce ses bénédictions, me promet des bénédictions, que j'attende ces bénédictions-là, que je ne cherche pas des voies détournées, parce que Dieu ne pouvait pas abandonner Jacob, et il l'a fait par grâce, non parce que Jacob l'a mérité, mais parce que Dieu l'avait déjà promis, il l'a réalisé. Attendons la bénédiction de l'Éternel, vraiment dans le silence, et quand cette bénédiction arrive, nous serons dans la joie, nous ne serons pas effrayés de jouir de cette bénédiction-là. Amen.
Amen. Merci, frère. C'est tellement vrai que nous avons d'un côté toutes les certitudes, toutes les assurances que Dieu nous donne à travers sa parole, au moyen des promesses, des prophéties. Nous avons aussi la présence et les encouragements des uns et des autres. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, nous avons la réalité à laquelle nous faisons face. Ça peut être un examen pour les étudiants. Ça peut être une recherche d'emploi dans un moment assez difficile où les portes sont pratiquement barricadées. Ça peut être une famille qui est complètement détruite et on ne voit pas comment ça va se relever. Ça peut être une difficulté de santé. Ça peut être toutes ces choses qui forment des montagnes devant nous. Et malgré toutes les promesses et les certitudes que Dieu nous donne, nous nous sentons encore si petits, si vulnérables devant ces choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de méditer la parole du Seigneur. Elle va nous ramener en nous montrant cette réalité afin de reprendre courage et espoir et continuer la marche avec victoire. Merci beaucoup, frère Gaston. Je vais donner la parole au pasteur Salomon. Pasteur Salomon.
Frère, est-ce le verset 10, c'est vraiment la prière est très importante. Cet homme nous donne un bon exemple ici. C'est aussi sur cette situation de danger qui le guettait, il s'est confié à Dieu. Il demande à Dieu de le garder, de verset 10 jusqu'au 13e verset. C'est vraiment une prière qu'il est en train d'adresser à son Dieu. Il a mis sa confiance malgré les dangers qui étaient devant lui et il s'est confié à Dieu. Demandez pas Dieu de compte, pas de ce qu'il a. Il n'a pas vu ses pièces, il n'a pas vu tout ce qu'il avait, mais il s'est confié à Dieu. Il explique que Dieu lui a fait des promesses. Il comptait sur la fidélité de Dieu. Et la prière est très capitale dans toutes les situations que nous traversons dans la vie. Et il faut que Dieu soit toujours à la première place, même si comment, il faut se confier à Dieu, comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui sa confiance et il agira. Et Dieu agit dans ces parties-là, dans ces grands dangers qui le guettaient, il s'est confié à Dieu, il a donné tout son temps, il a demandé à son Dieu de le garder. À notre place aussi, c'est de voir qu'il a cité les biens de son grand-père, les biens de son père, vraiment que le Dieu doit être le Dieu de la famille, de toute la famille. Dieu ne peut pas être seulement de moi, papa, parce que je suis pasteur ou je suis frère en quelque sorte. Notre Dieu, nous devons le partager, que le Dieu soit le Dieu de chaque enfant. Je dois connaître que le Dieu de mon père, c'est mon Dieu et c'est le Dieu que je dois servir. Comme la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vraiment un bon exemple là.
Merci. Merci beaucoup, pasteur Salomon. Bien-aimés, pour ceux et celles qui nous ont rejoints, nous sommes dans Genèse, chapitre 32. Nous méditons du verset 3 au verset 21e. Et je nous rappelle encore que si vous êtes dans un endroit où il y a un bruit de fond, mieux vaut peut-être éteindre la télé ou vous éloigner un peu de ces bruits-là pour ne pas perturber la bonne marche de notre méditation. Voilà. Pasteur José, est-ce que vous voulez intervenir?
Oui.
Oui, vous
merci
pouvez y aller.
Beaucoup. Oui, merci mon frère. Frères et sœurs, je rentre un peu au 7e verset pour voir un peu ce que les messagers ont rapporté à Jacob. Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. C'est tout. Et je pense que il est effrayé parce que il est question des hommes peut-être en bataille. Mais quand je considère le silence de Dieu, même dans la prière de Jacob où il dit « Délivre-moi de mon frère Ésaü », ainsi de suite. Et quand vous lisez le passage, la suite, la bataille de Jacob avec un être mystérieux, et puis la rencontre des deux frères. Il n'y a pas un endroit où la brutalité ou le mauvais projet d'Ésaü contre son frère. Et si il y en avait, je pense que Dieu aurait pu avertir Ésaü comme il a fait avec Laban. Laban a poursuivi Jacob avec les idées noires et le Seigneur l'a prévenu. Mais ici, il n'est pas question. Alors, je me demande si ce n'est pas la peur ou la crainte, c'est-à-dire le Jacob, il a pensé à tout ce qu'il a fait et entendu même, parce que il avait entendu que son frère disait à la mort de mon père, je vais faire ceci. Est-ce que cette phrase-là ne résonne-t-elle pas dans ses oreilles? Mais sinon, comme nous venons de dire, non. Il avait tous les atouts sur le plan spirituel. Il aurait pu se confier à son Seigneur sans dramatiser comme il a fait ici en divisant le groupe, en faisant ceci. Et tout ça, c'était mettre plus l'humanité par rapport à ce qui est spirituel. Donc, je pense que nous qui lisons aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. David, Jacob ne l'était pas. Nous sommes chrétiens. et nous lisons la parole de Dieu sur les deux côtés, ancien et nouveau, alors nous avons toute la matière, pas toute dans le sens de nous ne faisons pas du mal, non, mais quand même, on doit se souvenir, on pourrait se souvenir que de faire tout ça sans vraiment voir ce que Dieu lui-même pense de cette question. Voilà, bien-aimé.
Merci beaucoup, frère. Je vois encore le frère Albert, sa main levée. Frère Albert, vous avez la parole.
Merci, bien-aimé. Est-ce que vous m'écoutez?
Oui,
oui.
5 sur 5.
Merci. En tout cas, je pense que il y en a quelqu'un qui avait déjà intervenu. Je suis au verset 8, évidemment. Je ne voudrais pas répondre à la question que le frère José avait posée au départ. Mais il y a des leçons très profondes et qui sortent de ce verset 8 par rapport à la peur et l'angoisse que manifeste Jacob. Mais bien aimé, la plus grande leçon que le Seigneur m'a appris aujourd'hui par rapport à ce passage, il ne faudra pas que je puisse polier. C'est-à-dire, il ne faudra pas que je puisse amener de troubles dans la bénédiction que le Seigneur m'a déjà réservée. Jacob était déjà aimé et choisi par Dieu avant même qu'il soit conçu dans le ventre de leur mère. Le plan de Dieu était déjà là. Et Jacob était déjà élevé. Jacob était déjà béni. Il suffisait qu'il attende le temps et le plan que lui-même Dieu avait tracé devant lui pour que cela lui arrive paisiblement, mais à cause d'un caractère tortueux, il va se choisir de voie et de manière et de stratégie qui n'était pas choisie par Dieu. Et donc Jacob va avoir une élévation, il va avoir ce qui apparaît aux yeux de l'homme comme des bénédictions. Mais mes bien-aimés, suivons tout le parcours de la vie de Jacob, c'est dans les troubles qu'il va vivre. À cause, non parce qu'il n'était pas béni par Dieu, mais parce qu'il a précipité le plan de Dieu en mettant les stratégies humaines et en ne pas voulu attendre le plan de Dieu. Donc, on peut amener le trouble dans sa vie, dans la bénédiction que Dieu a déjà réservée, parce qu'on n'a pas attendu le plan de Dieu. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu en Jacob, et s'il n'y avait pas déjà les promesses que Dieu avait faites sur Jacob, il sera un homme très malheureux. Parce que matériellement, en tout cas, Esaïe n'a rien d'envier à son frère. La plus grande bénédiction que moi je retiens dans la vie de Jacob, c'est ce qu'il va être le père de Juda, et de Juda va sortir notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, sinon, mon bien-aimé, la vie de Jacob n'est pas à envier parce qu'il n'a pas attendu le secours et l'élévation de l'Éternel au moment voulu, dans le silence, en faisant confiance à l'Éternel. Merci, que Dieu soit loué.
Merci, frère. Oui, la bénédiction de Dieu, c'est vraiment faire partie du projet de Dieu, être partie prenante dans le projet de Dieu, comme ça va être le cas de Jacob. Merci beaucoup, frère. Je vais donner la... Est-ce que Maman Christine veut parler?
Non, c'est Papa Célé.
OK, Papa Célé, vous parlerez après la sœur, après le frère Jean-Baptiste.
OK.
Jean-Baptiste, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur José, pour la parole. Moi, je suis autour du verset 7 et 8. Je tire une leçon. Je vois la pédagogie de Dieu. Lorsque je ne lui fais pas confiance, lorsque je compte sur mes capacités, lorsque j'essaie de résoudre des problèmes de moi-même, je vois là Dieu toujours capable d'ériger un obstacle pour me ramener sur la bonne voie. Jacob avait la promesse de Dieu, mais il a misé sur sa richesse pour amadouer la conscience de son frère. Mais je suis nettement convaincu que C'est Dieu qui continue à convaincre son frère pour qu'il avance, pour que les messages arrivent dans ses oreilles selon lesquels ton frère monte contre toi. Alors, en apprenant ce message, maintenant, il va chercher la voie de la prière. Souvent, c'est ce qui nous arrive. J'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai dit bon, j'ai résolu les problèmes de ma main. Mais lorsque j'apprends non, on m'a dévalisé, alors là, je me dis, il faut retourner vers le Seigneur. Donc, c'est vraiment une pédagogie de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas un bon exemple à suivre ici. Quelles que soient mes capacités, comme avait dit le pasteur Célé hier à l'église dans sa prédication, il faut tout faire précéder par la prière, même si on est sûr de soi-même, parce que sinon, Dieu est toujours capable d'endurcir le cœur de l'autre pour que nous puissions être revenus à la raison. Amen.
Merci beaucoup, frère. Papa Célé, vous avez la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. J'arrive au verset 13 avec la prière de Jacob. C'est vrai, nous voyons l'humanité de cet homme qui a peur, mais qui va prononcer des paroles qui peuvent vraiment nous aider ou nous inspirer. Au verset 13, il va dire à Dieu, « Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien. » Je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est le mot tu m'as dit qui m'interpelle. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il rappelle à Dieu ce que Dieu a dit. Ça, c'est une façon de prier qui montre que nous ne prions pas en l'air, nous prions sur base d'une promesse. Aujourd'hui encore, si nous regardons les promesses de Dieu et nous disons à Dieu, Seigneur, dans ta parole, tu as dit ceci, mais concernant en tant que fils et fille de Dieu, ça c'est une prière qui pèse parce que nous renvoyons la parole, qu'est-ce que Dieu a dit dans la prière. Voilà, c'est vraiment un exemple à suivre. Nous avons tellement de promesses que nous devons les connaître et les retourner à Dieu en réclamant, Seigneur, tu as dit combien tu vas protéger, tu vas bénir, tu vas faire ceci à ton peuple qui te cherche, qui te craint, qui te serve. C'est vraiment un exemple à suivre. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. Frère Médard, vous avez la parole.
Merci, Pasteur José de Canada, pour la parole. Je pouvais baisser la main. Il fallait que je parle avant Papa Célé, après le frère Jean-Baptiste, mais rien n'empêche d'ajouter quelque chose, parce que tout ce que j'allais dire, le pasteur Célé l'a dit. Mais je veux dire que c'est une interpellation pour moi. Oui, je suis un chrétien de longue date, c'est bien, mais comme je dis, Dieu connaît mon cœur. Mais c'est une interpellation pour moi, je dois mémoriser la parole de Dieu. Si je peux mémoriser les paroles de Dieu et les promesses de Dieu seront entrées en moi et je vais lui rappeler cela dans ma prière. Oui, Jacob était goy-goy, mais cette prière-là, comme a dit le pasteur Célé, vraiment ça nous donne un exemple à suivre. Rappelons à Dieu les promesses. Mais quand nous ne lisons pas la Bible, quand nous ne savons pas mémoriser les versets bibliques, c'est compliqué de connaître les promesses qui sont là et nous allons prier en l'air. Au lieu de prendre Dieu au mot, nous ne saurons pas lui prendre au mot parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. C'est une interpellation pour moi et pour nous tous que nous devons chercher à mettre la parole de Dieu, de pas tous les versets, mais quelques promesses de Dieu qui sont nombreuses dans la Bible et que nous puissions connaître cela. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à mémoriser beaucoup, beaucoup de promesses de Dieu et je prendrai Dieu au mot pendant mes moments de prière. Amen.
Merci beaucoup, Frère Médard. Bien-aimé, ce soir, ce texte qui parle de Jacob, de sa vie, de sa réalité, est tel que nous pouvons nous poser la question moi, aujourd'hui, ne suis-je pas comme Jacob? Avant de continuer, Frère Médard, la main est levée. Est-ce que vous voulez continuer?
J'essaie de la descendre.
Oui, c'est que quand vous prenez la parole, le système va baisser votre main automatiquement.
Oh,
et quand vous
alors...
essayez de la baisser, vous la levez au fait.
Pardon, je m'excuse alors, merci.
Oui, frères et sœurs, nous avons vu Jacob dans une situation angoissante et nous nous sommes posé la question de savoir si il aurait pu commencer par la prière, la question qui a été posée par le pasteur José, une question de rhétorique en fait, mais aussi une question qui nous montre si nous-mêmes nous ne sommes pas comme lui. Nous faisons face parfois à des difficultés, des problèmes personnels, individuels ou familiaux qui sont peut-être si profondes, si intenses que malgré les promesses que nous avons nous-mêmes de la part du Seigneur, nous sentons que nous sommes engloutis par la grandeur, la grosseur ou la hauteur du problème qui est devant nous. Et Jacob va nous donner quand même un exemple, malgré qu'il a commencé par une stratégie qu'il a intercalée par cette prière. C'est une prière qui vaut la peine de s'y arrêter un moment, parce que dans cette prière, je trouve qu'il va baser son appel, comme on vient de voir les deux dernières interventions parler. Il va rappeler sa relation avec Dieu d'abord en disant « Je m'adresse à toi, Dieu, qui est le Père de mon grand-père. Tu es le Dieu de mon grand-père. Tu es le Dieu de mon Père. » Mais il va aussi rappeler Dieu que ce n'est pas seulement toi, le Dieu de mon grand-père et de mon Père, mais tu es mon Dieu parce que tu m'as parlé, parce que tu m'avais dit ceci. Il va rappeler que le Seigneur lui a dit dans le chapitre 22 au verset 17, quand Dieu lui a dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. » Et quand il est face à son frère qu'il croit qu'il va le tuer ainsi que les enfants, parce que c'est ce qu'il dit au verset 12, « Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère, ni les enfants. » Or, il s'agit exactement du point sur lequel Dieu lui avait fait la promesse, que ta postérité sera si nombreuse que personne ne saura la compter. Et quand on est face à cette difficulté, j'ai l'impression qu'on perd la capacité de s'apaiser soi-même et de faire confiance au Seigneur. D'où l'idée que si nous croyons que Dieu est fidèle, cette croyance, cette conviction aussi forte doit impacter notre attitude vis-à-vis de lui, c'est-à-dire la confiance absolue que nous devons avoir dans les promesses de notre Dieu. En ce qui concerne le besoin de faire, de mettre en place une stratégie, dans les cas présents, comme la plupart des intervenants l'ont dit, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole du Seigneur et de faire confiance à Dieu. Surtout pour un homme qui vient de voir comment Dieu l'a protégé contre son oncle Laban, qui venait effectivement, comme le pasteur José l'a dit tout à l'heure, avec des idées noires, et le Seigneur est intervenu. Ce même Dieu qui est intervenu dans la situation précédente ne pourrait-il pas faire la même chose dans la situation à venir? S'il a fait cela hier, donc il va le faire encore demain parce qu'il n'a pas changé. Tant que moi, je reste dans l'alliance que lui a établie avec moi, je sais que je suis en sécurité. Frères et sœurs, en ce moment, il est possible que vous êtes face à une adversité qui vous angoisse. Vous êtes face à un problème personnel, familial ou même un problème de notre niveau, mais peu importe sa nature ou son niveau, vous êtes angoissé, comme Jacob devant son frère Ésaü. Que faire? Jacob nous donne un bel exemple à suivre. Il va prier en appuyant sa revendication sur les promesses de Dieu et il veut compter sur le Seigneur. Et c'est ce que nous pouvons retirer de notre méditation ce soir. Si le Seigneur nous a dit de méditer sa parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et pour que nous ayons en fait de la réussite dans ce que nous faisons, alors les leçons qui nous ont été présentées ce soir, que chacun de nous les mette en pratique et nous verrons comment le Dieu de Jacob va aussi intervenir et agir dans notre vie. Pour demain, nous continuons avec le verset 22, Genèse 32, verset 22 à 32, et nous aurons les questions 3 et 7 pour nous aider à faire la méditation. Papa Céleste, est-ce que le problème de la radio a été réglé?
Non, pas encore.
Ah, ok.
Mais les amis suivent la méditation de l'Europe.
Ah, ok. Ok. Alors, voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Je vais demander au pasteur Richard, est-ce qu'il est encore au volant?
Non, je viens d'arriver à la maison.
Ah, ok. Alors, vous allez terminer par la prière, s'il vous plaît.
Prions notre Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant, tu as parlé à Jacob. Et aujourd'hui, tu nous as parlé. Tu nous as convaincus aussi. Dieu le Père Tout-Puissant, nous prions que notre réaction puisse s'accorder à ce que tu nous dis. Aide-nous, Père éternel, à développer une confiance totale en toi. Dieu le Père Tout-Puissant, aide-nous à comprendre que toi, tu agiras selon ce que tu as dit. Tu te manifesteras à nous selon ta parole. Aide-nous, oh Dieu le Père Tout-Puissant, à nous accrocher à ta parole. Quel que soit le danger devant nous, Père éternel, ta parole doit nous maintenir à marcher ayant totalement confiance en toi. Enseigne-nous, oh Dieu le Père Tout-Puissant, à compter sur ta parole. Aide-nous, oh Dieu le Père Tout-Puissant, à ne pas être seulement des auditeurs oubliés, mais plutôt de ceux-là qui écoutent et mettent en pratique ta parole. Tu nous as parlé ce soir. Nous recommandons, Seigneur, ton serviteur, que tu t'es servi ce soir pour nous canaliser ta parole, Père éternel. Le pasteur José du Canada, Père éternel, que le ciel s'ouvre sur lui et fait pleuvoir des bénédictions, Seigneur, dans sa vie. Ô Père éternel, chaque maison qui a ouvert sa porte pour recevoir ta parole. Prions, Seigneur, que ta main, Père éternel, puisse déverser des bénédictions. Père éternel, toi qui as créé la technologie, nous prions, Papa, que tu puisses rendre cela possible à tes enfants, que rien ne fasse obstacle à tes enfants d'être privés des vérités profondes que nous venons d'être enrichi, Seigneur, à travers cette méditation. Prépare-nous encore, Seigneur, pour la journée de demain. Pendant que nous allons dormir, que ton esprit continue à nous parler, à nous instruire, à nous diriger. Nous recommandons, Seigneur, la grande famille de Pimès soit bénie par toi, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière de bénédiction. Bonne soirée à tout le monde et à demain.
Mm.